Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Bonjour, c'est Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Comme chaque dimanche, c'est votre rendez-vous qui parle de ciné à la radio. On est là pendant une heure et voici le programme. Avec pour commencer, dans moins de deux minutes, ma sélection des sorties ciné de la semaine prochaine. Il y aura deux comédies, une qui chante et une qui parle latin. Un film avec des vampires et des retrouvailles en bord de mer. Vers 11h30, je vous donnerai les chiffres du box-office et on fera un point sur l'actu ciné de la semaine avec trois films américains. On parlera de Batman, de Ready Player One et de Scream. Mais vous le savez, Studio B, c'est avant tout un film fil rouge avec un invité qui nous accompagne durant toute l'heure. Et ce dimanche, on vous emmène dans une classe d'un lycée dont les profs ont trouvé une recette miracle pour que tous leurs élèves aient le bac. Dans leur classe, le taux de réussite au bac est de 100%. Oui, vous avez bien entendu, 100%. Là où pour le reste du lycée, un lycée un peu difficile de banlieue, on atteint juste les 70%. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité et pas de miracle non plus. J'ai utilisé le mot, mais j'aurais peut-être pas dû, puisqu'en fait, de miracle, il faudra surtout parler de travail, de détermination du côté des élèves et des profs. Un documentaire qui retrace une année scolaire dans cette classe particulière sort ce mercredi en salle. Un film réalisé par un des professeurs qui a inventé la méthode que je suis ravi de recevoir aujourd'hui dans Studio B. Jérémy Fontagneux, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM.
Merci.
On est ravi de vous recevoir. On a une coutume dans Studio B, c'est de proposer à notre invité de choisir deux questions. Une question que vous voulez qu'on vous pose et on vous la posera à un moment dans l'émission. Une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose. Du coup, comme on est gentil, on ne vous la posera pas. Est-ce que vous avez vos deux questions?
En fait, la méthode qu'on a développée et dont le film montre un aperçu, c'est une méthode qu'on a développée à Drancy, en Seine-Saint-Denis, où on travaille depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et c'est vrai que lorsque on a décidé de la faire connaître pour donner envie à des profs de France de nous rejoindre, de se lancer à leur tour dans le travail avec les familles tel qu'on le fait, beaucoup de journalistes ont tendance à se focaliser sur nous, sur Drancy ou sur notre petite personne, parce qu'il y a souvent le mythe un peu du prof héros qui va tout changer par lui-même. Et donc en fait, la question que j'aimerais que vous ne me posiez pas, c'est la question qu'on me pose souvent. C'est des questions d'ordre personnel. Qui êtes-vous? Comment faites-vous pour faire réussir tous vos élèves tout seul avec votre génie ou votre charisme? Enfin, c'est pas ce... on la pose pas comme ça, mais disons que les questions sur ma petite personne me gênent.
Ok, bon bah c'est tout à votre honneur. Et j'avais pas prévu en plus, donc, donc ça me va bien. Et une question que vous vouliez qu'on vous pose peut-être?
Du coup, c'est des questions sur la méthode elle-même, sur le... Sur ce travail avec les familles qui est un peu déroutant pour les enseignants, je pense qu'on va en parler. Après, c'est vrai que je serais ravi de parler du second enjeu du film, qui est moins relatif à la pédagogie qu'à l'image que l'on a en France des quartiers populaires, puisque l'un des buts de ce film, c'est de non pas redorer l'image, mais de simplement montrer la réalité de ce qu'est Drancy, la Seine-Saint-Denis, ou plus largement, je crois, les quartiers populaires en France.
Très bien, et bien on en parlera, il n'y a pas de souci. Vous êtes avec nous jusqu'à midi, Jérémy Fontagneux. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 17 mars. Bienvenue dans le 131e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Allez, on commence par un tour des sorties ciné de la semaine. Deux comédies françaises en concurrence cette semaine. On commence par Karaoké, où on suit Bénédicte, une chanteuse d'opéra vraiment star qui fait trop de folie dans une soirée. Notamment, elle se met à chanter dans un karaoké. Elle est filmée par la presse. Et dans le monde très chic de l'opéra, ça fait scandale.
Je ne peux pas associer le nom d'une diva à celui de karaoké. Ça ne marche pas. Tu es mise à pied.
Alors Fatou, qui l'avait entraînée dans ce karaoké, ne va pas la laisser tomber. Mieux, elle voit ça comme une aubaine. Elle qui est fan de l'émission, n'oubliez pas les paroles.
Votre voix, ma présence, on va tout déchirer.
J'ai envie de dire bonjour à n'importe qui.
Et forcément, les techniques de chant d'opéra et de chant de karaoké, c'est pas du tout les mêmes. Mais à force d'entraînement, elles vont finir par y arriver.
Il faut tout savoir sur le bout des doigts.
Ce soir, je suis bleu vers des coups de minuit. Je vais pas te blesser, alors je dis que t'es mini.
Mimi, pas mini.
Ah,
si on se qualifie ce soir, c'est direction Tokyo pour le championnat du monde. La mecque du karaoké.
Mais rassurez-moi, vous comptez quand même pas gagner.
Mais pourquoi pas, Fatou?
Vous avez peut-être reconnu les voix de Michel Larocque et de Claudia Tagbo qui jouent les deux chanteuses. Le film est réalisé par Stéphane Benlassen qui avait déjà travaillé avec Michel Larocque en 2018 sur la comédie Premier de la classe. Et autre comédie, pour ceux qui ont des vieux souvenirs de cours de latin, Bis Repetita avec Louise Bourgoin et Xavier Lacaille. Une prof de latin a fait un deal avec ses élèves. Mais pour sauver son poste, elle va devoir les inscrire à un concours. Bande annonce.
On a un deal, je vous rappelle. Les gars, on a déjà fait cours de latin?
Non, jamais.
C'était le deal de pas faire cours.
Si on l'a
la ferme, on a 19 de moyenne.
Mais si vous préférez, on peut toujours faire des interros de grammaire.
Je suis très très inquiète pour le maintien de l'option latin l'année prochaine. Si on fait rien, j'ai peur que ce soit dead. Il faut que vos élèves soient brillants à ce concours.
Alors, je vous présente Monsieur Cagna.
Monsieur Cagna va nous accompagner pendant toute la durée du concours.
C'est qui ce bouffon, là?
Vous pouvez m'appeler Rodolphe.
Si votre classe gagne les Ludi Latini, on est sauvés.
Alea Iacta Est.
C'est une secte ou quoi?
Aquis.
Datif L'Oréal ou ablatif L'Oréal?
Là, on a juste rien compris. Hein.
Et on a compris qu'on était des grosses merdes. Tout ça parce que vous avez la flemme de nous faire cours.
Mais tu dis n'importe quoi.
C'est-à-dire, vous avez jamais fait quoi?
On va tricher.
C'est vous la prof et c'est vous qui nous dites de tricher, mais c'est immoral.
Immoral. Ça va pas, non?
Isma, wenite, wenite, hoc, pra, eclare, simum.
Ok.
Un film remarqué à la comédie au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez où il a remporté le prix du coup de cœur du public, jury en tout cas, le coup de cœur du jury. Louise Bourgoin retrouve la comédie alors qu'elle était plutôt dans des rôles plus dramatiques depuis 2017. C'est le premier film de la réalisatrice Émilie Noblet dont, pour l'anecdote, la grand-mère était prof de latin. Jérémy Fontagneux, ça vous inspire cette comédie qui se passe dans l'école pour le coup?
En fait, il y a beaucoup de films qui sortent sur l'école et d'ailleurs Louise Bourgoin avait été actrice dans un film il y a quelques mois qui s'appelait Un métier sérieux de Thomas Lilly. Et en fait, la plupart des films, qu'ils soient des comédies ou non, sur l'école en France et sur l'école plus généralement, me semblent assez réalistes. Ils me semblent assez refléter la réalité telle qu'elle est. Et c'est vrai que la réalité telle qu'elle est aujourd'hui du système éducatif en France en particulier, elle est assez sombre ou elle est un petit peu déprimante. C'est-à-dire que les élèves gâchent beaucoup leur potentiel. Les professeurs ne vont pas très bien. Ils sont dans une situation
là, elle est carrément pas bien. Elle leur propose, ok, vous êtes calme, mais du coup, en échange, vous avez 19. Quoi.
C'est ça, une forme de corruption des élèves. Alors, évidemment, c'est un exemple qui, pour le coup, n'est pas réaliste. C'est un exemple comique, si je puis dire. Mais c'est vrai que derrière la souffrance ou le sentiment d'impuissance qu'il y a de la part de cette professeure, en l'occurrence, il est très, très partagé. Et nous-mêmes, pendant des années, on l'a partagé, on était en souffrance. Et c'est vrai que la méthode qu'on montre dans le film a permis de casser complètement cette impuissance-là.
On va en reparler dans la suite de l'interview. On revient sur les sorties ciné, encore deux films. On change de style complètement avec Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Alors tout est dans le titre, hein. Une jeune vampire a un problème. Elle refuse de mordre le cou des gens parce que je trouve ça trop méchant de les tuer. Sauf que c'est un problématique pour une vampire qui ne se nourrit que de sang. Elle va alors rencontrer un ado suicidaire qui est donc volontaire pour se faire mordre le cou au lever du soleil. Et si cette rencontre lui redonnait finalement goût à la vie. Et puis enfin, hors saison avec Guillaume Canet et Alvaro Rovachor, c'est une des grosses sorties de la semaine prochaine. Ils prennent le rôle d'un acteur et d'une prof de piano qui étaient en couple il y a 15 ans et qui se retrouvent un peu par hasard dans une station balnéaire dans l'ouest de la France.
Studio B, l'interview.
Allez, on arrive à notre interview de la semaine. Jérémy Fontagneux, vous êtes le réalisateur du film Le Monde est à eux, documentaire qui sort ce mercredi sur la méthode que vous avez mis au point avec votre collègue David Benoît. Si je vous demande de résumer le film en quelques mots.
Le film, c'est l'histoire d'une année scolaire à Drancy, dans un lycée général et technologique. On suit en fait le parcours d'une classe de terminale, donc il y a 28 élèves, qui en début d'année ont beaucoup de mauvaises habitudes, à la fois parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils ont la flemme, c'est des adolescents, ils n'ont pas trop envie de travailler, ils ont peur du regard des autres. Et petit à petit, le film montre comment est-ce que les élèves se mettent au travail, multiplient leurs efforts par deux ou par trois et progressent, ce qui produit un déclic, ce qui favorise l'émergence d'un groupe et donc crée une sorte de cercle vertueux. Les élèves ont envie de travailler et donc du coup ils permettent aux professeurs de les aider véritablement et finalement bon, vous l'avez dit tout à l'heure, on a spoilé un petit peu, à la fin tout le monde a le bac et tout le monde est content, si je puis dire. Le film montre cette année difficile parce qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais il y a surtout beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup de progrès et le sentiment que on peut y arriver. À la fois les élèves sont capables de réussir, tous d'obtenir leur bac avec mention, de choisir des orientations qui sont ambitieuses, et puis nous aussi les adultes, les professeurs, nous qui souffrions beaucoup par le passé, nous arrivons à faire réussir les élèves, donc c'est formidable.
C'est une belle illustration de l'expression quand on veut, on peut. Je pense que là sur le thème c'est vraiment une illustration de ça. Le film illustre la méthode réconciliation, donc c'est la méthode que vous avez inventée. En quoi consiste cette méthode?
En fait, la méthode réconciliation dit quand on veut, on peut, mais à certaines conditions. C'est-à-dire que ce proverbe, quand on veut, on peut, je pense qu'il est vrai à certaines conditions, et les conditions qui sont les nôtres, c'est créer ce cadre, cette alliance avec les parents. Donc en gros, nous les professeurs allons chercher très tôt les parents, on le voit au tout début du film, on appelle les parents le 1er septembre individuellement pour leur proposer de se rencontrer et de créer une sorte de pacte, une sorte d'alliance ensemble. On se promet de se tenir au courant tout au long de l'année de l'évolution, nous en envoyant des SMS aux parents au sujet de ce qui se passe à l'école, et les parents nous faisant des retours sur l'impression qu'ils ont à la maison, les éléments extrascolaires qui influencent forcément la vie d'un adolescent et donc sa scolarité. Et donc en se promettant de se serrer les coudes et de travailler main dans la main du premier au dernier jour de l'année, ce cadre-là très vite envoie comme message aux élèves: écoutez, cette année vous allez vous aurez la possibilité beaucoup moins grande que les années précédentes de faire des bêtises, de gâcher votre potentiel, de faire des pannes de réveil, de ne pas réviser, bref, vous n'allez pas gâcher votre potentiel parce que nous les adultes, nous avons décidé de travailler ensemble.
C'est ça, le cœur, c'est le lien entre les profs et les parents.
Absolument, ouais, ouais.
C'est une méthode que vous avez créée un peu de manière empirique, peut-être artisanale,
oui.
Expérimentale,
oui, c'est
avec
ça.
Votre collègue David Benoît.
C'est ça.
Comment vous êtes arrivé à la créer, et puis surtout, comment est-ce qu'on arrive à quelque chose, entre quelque chose d'artisanal, comment on passe à une méthode qui est presque théorisée, puisque vous avez écrit un livre, hein, L'école de la réconciliation, qui était publié en août 2022 aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Oui, en fait, on l'a un petit peu théorisé au bout de quelques années. Les premières années, ça a été beaucoup d'expérimentation, de tâtonnement un peu accidentel. En fait, mon collègue et moi, il y a un peu plus de 10 ans, donc le projet, la méthode a commencé à être élaborée en 2012, à Drancy, donc. Et c'est vrai que au début, en fait, on est des profs comme les autres, et il y a une dizaine d'années, on était vraiment dans la même situation que les autres professeurs, à la fois à Drancy et partout ailleurs en France. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des élèves, en l'occurrence des adolescents, mais ça marche aussi au collège ou en école primaire. Ma femme est professeure des écoles à Sarcelles, et donc elle a des élèves qui n'ont pas le même âge que les nôtres à Drancy, mais qui, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ne font pas assez d'efforts. Les élèves manquent de confiance en eux, les élèves ont un peu peur du regard des autres, ils ont l'impression que l'école n'est pas faite pour eux ou qu'elle ne les comprend pas, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Dans les quartiers populaires en particulier, l'institution scolaire ou l'école publique avec un grand E donne parfois l'impression aux élèves qu'ils ne sont pas les bienvenus en quelque sorte. C'est quelque chose qui est plus largement ressenti par les élèves, pas juste à l'école, oui. Quand on voit la société française, le racisme, le mépris social, les discriminations, bref, les élèves ne se sentent pas à leur place en quelque sorte à l'école, et puis ils ont la flemme, fondamentalement c'est des adolescents, ils préfèrent passer leur temps sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Donc en fait, pour toutes ces raisons, nous professeurs étions en souffrance parce que on essayait du mieux possible de faire notre travail, comme tous les profs à Drancy comme en France. On était compétents, on avait décidé de faire ce métier-là, on se donnait du mal, mais finalement tous ces efforts-là de notre part s'effondraient lorsque en classe on avait des élèves qui, une fois sur deux, étaient sur le téléphone portable, une fois sur deux arrivaient en retard, avaient oublié leurs affaires, et puis surtout à la maison ne révisaient jamais. Donc c'est vraiment un constat d'échec, d'impuissance, qui nous a poussé à, comme tous les professeurs, essayer d'improviser des solutions, hein. C'est vraiment un métier de débrouillardise, professeur. Il y a une liberté pédagogique qui est formidable, on peut faire ce qu'on veut, on nous donne un programme qu'il faut suivre, mais c'est vrai que les outils, on doit les élaborer par nous-mêmes, et donc c'est ce que nous avons fait, comme tous les autres profs. Et c'est vrai que la chance qu'on a eue, nous, à Drancy, c'est de rencontrer les élèves que nous avons rencontrés, et surtout les parents, qui très vite, après des incursions un petit peu timides ou hésitantes, on s'est dit, et pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas l'aide au papa de Farah, ou à la maman de Inès, ou au papa ou au grand frère de tel ou tel élève. Les parents nous ont dit, vous pouvez compter sur nous, oui, n'hésitez pas, c'est vraiment ça.
Jérémy Fontanier, vous êtes avec nous jusqu'à midi sur Beurre FM dans Studio B. Le film Le Monde est à eux est un documentaire et sort ce mercredi en salle.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B, avec Christophe.
Merci d'être avec nous ce dimanche de Ramadan, jusqu'à midi, et comme tous les dimanches, entre 11h et midi, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On parle aujourd'hui du documentaire Le Monde est à eux, avec notre invité Jérémy Fontanieux, qui a réalisé le film, et qui est surtout le professeur qu'on entend dans le film.
Bonjour, je suis Monsieur Fontanieux. On a mis en place un système d'encadrement des élèves basé sur la coopération avec les familles, et ça fait plusieurs années qu'on est à 100% de réussite au bac.
Et Alexis avec le même 4 de moyenne normale. Et au bac, 13 et 14. Vos enfants, au fond d'eux, ils ont envie d'y aller.
Au fur et à mesure des années, au lieu d'acquérir des connaissances, j'ai accumulé des difficultés.
Je savais pas honte de moi, mais j'étais pas ce que je voulais être.
L'objectif du projet, c'est de montrer que tous les jeunes peuvent réussir.
Ma vision des cours, elle a énormément changé.
Je suis déterminé, je suis motivé, je suis concentré.
Je suis fière de moi, je suis fière que mes parents soient fiers de moi, je suis fière que les profs soient fiers de moi.
Franchement, c'est énorme.
Les gens ont tendance à supprimer leurs rêves ou à pas assez croire en leur potentiel. Ne laissez pas le monde réel vous rendre normaux parce que vous êtes magnifique là, tel que vous êtes aujourd'hui.
J'espère que toi, Inès du futur, tu es ce que je veux devenir plus tard.
La bande-annonce du film Le Monde est à eux, documentaire qui sort donc ce mercredi. Jérémy Fontagneux, au-delà de la méthode et de cette expérience humaine passionnante, on l'entend dans la bande-annonce, mais on le voit encore mieux dans le film. On va y revenir à la méthode. Mais comme vous êtes dans une émission cinéma, je voulais aussi parler de la forme, parce que les images qu'on voit dans le film, elles n'ont en grande partie pas été faites pour faire un documentaire diffusé au cinéma.
C'est ça. En fait, le film est un petit peu à l'image de la méthode dans la mesure où il a été fait par accident. On disait tout à l'heure, cette méthode, elle a été un peu improvisée, elle a été faite de manière un peu tâtonnante, hasardeuse, et on a eu beaucoup de chance de rencontrer ces élèves et de rencontrer ces familles-là. Et en fait, finalement, le film, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que à la fin de chaque année scolaire, une fois que les résultats du bac sont tombés et que depuis 2017-2018, tous les élèves de terminale obtiennent leur baccalauréat, on fait une grande fête. Et en fait, ça fait plus de 10 ans, même quand à l'époque, on ne faisait pas 100% les premières années. On réunissait tous les bacheliers avec leur famille, puisqu'on avait travaillé main dans la main avec cette méthode-là. Et donc, c'était une sorte de moment d'allégresse, de joie, c'était une fête. Et c'est vrai que on s'est dit à l'été 2019, il y a quelques années, pourquoi ne pas prendre des petits bouts, des petits souvenirs pendant l'année scolaire et nous ferions une sorte de petit clip à la fin de l'année, au moment de la fête, un peu comme dans les mariages, vous voyez, où oui. On passe parfois des petites compilations.
C'est un film qui était fait pour ça à la base, pas la fête de l'école, mais
exactement. Même pas de l'école, pour notre fête de notre classe,
oui,
c'est-à-dire
oui,
vraiment,
classe
c'est ça,
c'est ça.
C'est ça. Donc c'est juste entre nous. Et c'est vrai que il y a eu le confinement en mars 2020. Et à ce moment-là, comme on avait beaucoup de temps, mon collègue et moi, on a regardé tout ce qui avait été enregistré à la fois par nous en classe, parce que quand on enregistrait, quand on filmait les cours, on avait acheté un petit caméscope, un trépied, et c'est vrai que on regardait pas les rushs, parce que nous, notre travail, c'est un travail d'enseignant, de préparer les élèves à se mettre au boulot, à progresser, à avoir confiance en eux.
Vous enregistriez les images, mais vous les contrôliez pas.
On ne les regardait pas, c'est ça. Et comme on a eu beaucoup de temps à la fois pour regarder ces images-là, et puis pour regarder les témoignages des élèves, on a été impressionnés par la force, la beauté, qui sont pas forcément une force ou une beauté formelle, parce que finalement nous ne sommes pas des professionnels et qu'il y a une dimension un peu amateur ou accidentée des images.
Oui, c'est des images très naturalistes, on va dire.
C'est
pas des images de cinéma. On voit que c'est pas des images de cinéma.
C'est une manière pudique de dire que nous avons pas beaucoup de budget.
Oui,
ce qui est le cas, puisque en fait nous sommes enseignants et que on n'avait pas du tout comme projet de faire un film pour le cinéma. On n'en avait pas les moyens et puis on n'en avait même pas l'ambition, parce que vous imaginez le travail qu'on fait avec les élèves, qui est un travail de vigilance où il faut les secouer, en même temps il faut les encourager, il faut être là pour eux. On voulait pas avoir à gérer une équipe de films qui par ailleurs pourrait, enfin il y a une dimension, c'est ça, il y a quelque chose d'intime dans une salle de classe, et donc la confiance qui nous lie avec les élèves ne saurait être perturbée par des personnes étrangères, si je puis dire. Bon, et donc c'est vrai que à l'origine on pensait le garder pour nous, et puis comme on a été impressionné par ces images là on a décidé de proposer aux élèves d'en faire un moyen métrage, d'en faire un film d'une heure auquel on ajouterait donc à la fois les images tournées au lycée, les cours, les témoignages des élèves qui à tout moment pouvaient prendre la caméra, le trépied, s'enfermer dans une autre classe vide pour dire voilà comment je me sens, en ce moment c'est difficile, mais je vois que je progresse, j'espère que ça ira mieux, etc. Donc, mais du coup, on leur a proposé de prendre ces images-là et d'y ajouter des images à la fois que nous tournerions avec une équipe professionnelle qu'on était prête à rémunérer rémunérer du coup avec nos deniers collectifs le jour de la fête de fin d'année, parce que on savait que ça allait être un beau moment, parce qu'on le vit chaque année, et donc on s'est dit peut-être que ça pourrait être bien d'avoir des images à la hauteur de la beauté de cet événement. Les élèves ont accepté, ils étaient très enthousiastes, les parents aussi, et puis on leur a proposé aussi de se mettre d'accord collectivement sur certaines familles qui seraient prêtes à ouvrir leurs portes pour tourner des images à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la vie extrascolaire, en quelque sorte, de ces élèves, de ces familles-là, pour que le film ne soit pas juste un film sur l'école, dans l'école, entre les murs, si je puis dire, sans vouloir faire de jeu de mots, mais un film qui montre aussi, finalement, ce qui est le cœur de la méthode.
Ça met les élèves au centre.
C'est ça, les élèves ne sont pas juste des élèves, ce sont par ailleurs des adolescents, et donc ils ont une vie en dehors du lycée. Et c'est vrai que nous, avec la méthode, on le sait d'autant mieux qu'on est vraiment de manière très régulière lié, enfin on échange très régulièrement avec les familles, et donc après tout, si le film montre ce que nous faisons et ce que nous sommes, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille filmer chez certains élèves? Et les élèves ont trouvé que l'idée était super, et ils ont décidé collectivement quels seraient les élèves qui ouvriraient leurs portes. Évidemment, il y avait des élèves qui étaient partants, mais il y avait une dimension aussi de représentativité, c'est-à-dire il y a une telle diversité dans les genres, évidemment, dans les caractères, bien sûr, mais aussi dans les origines ethniques, dans les religions de nos élèves, qu'on voulait que les différentes familles, on en voit cinq du coup à l'image, puissent montrer aussi ce qui fait partie des grandes richesses de la Seine-Saint-Denis et de la France plus largement.
Alors, même si à la base c'était pas un vrai film, au final c'est un vrai film qui a un financement, un producteur, un distributeur, le soutien de la région, de chaînes de télévision aussi. Comment on passe de l'éducation nationale à l'industrie cinématographique ?
De manière accidentelle, vous allez trouver que je me répète, mais en fait, une fois
que c'est beau, tout est guidé.
Oui, il y a quelque chose de, ouais, il y a quelque chose d'un peu miraculeux. En effet, à la fois dans la méthode et dans le bonheur nous pédagogique qu'on a la chance de vivre à Drancy, puisque la méthode continue d'être appliquée pour l'ensemble de nos élèves, on en a fait un film, mais dont moi-même, avec une partie de la classe, on a fait le montage, mais nous ne sommes pas monteurs, on n'a pas les compétences. Donc on a fait une première version de ce film qu'on a évoqué dans des interviews, parce qu'on avait décidé à ce moment-là, sans lien avec ce projet-là, mais on avait décidé de parler de la méthode, de montrer les résultats, d'inviter des journalistes à Drancy, et ça a attiré l'attention de producteurs du groupe Canal+, donc c'est Upside, qui sont les producteurs de ce film, qui ont dit... on leur a montré cette première version un peu brouillon, et ils ont dit écoutez, il y a un potentiel qui est formidable, le film que vous avez fait ne sortira jamais au cinéma parce que il n'est pas assez cinématographique, ouais. Mais nous, notre travail, c'est aussi de créer ou d'accompagner des artistes, ou d'accompagner des personnes qui veulent créer un objet cinématographique, et donc avec leur aide on a pu transformer ce qui n'était qu'une version amateur, en quelque sorte, en objet cinématographique, grâce surtout au travail extraordinaire de la monteuse, Camille Delprat, qui est une femme formidable et qui est très compétente, et qui, a fait un montage nouveau avec Adem Barret, qui est l'assistant réalisateur, qui est l'un des élèves de la classe, qui travaille aujourd'hui dans le cinéma, qu'on voit grandir tout au long du film, puisqu'il était en terminale cette année-là. Et puis avec moi aussi, qui voulait absolument accompagner ce nouveau montage. Donc à la fois travaille avec la monteuse, travaille avec un graphiste pour l'habillage du film, avec l'étalonneur qui a rendu l'image un peu plus belle qu'elle ne l'était à l'origine, avec un mixeur, composition d'une bande originale, bref, transformer ce brouillon, si je puis dire, en film qui sort au cinéma.
Ça devait être intéressant pour vous de rencontrer tous ces corps de métier différents.
Oui, en fait, c'est intéressant. C'est vrai que le monde du cinéma m'en était assez étranger. Enfin, je suis cinéphile de par mon papa. Dans l'enfance, j'aime beaucoup le cinéma. Mais c'est vrai que là, c'était une incursion dans ce monde-là. La rencontre avec les producteurs a été très belle, et ce sont des personnes dont je suis proche et qui portent vraiment ce film avec une énergie et un courage, parce que c'est quand même un objet, ou c'est un projet qui est quand même un peu atypique.
Oui.
Donc ils ont eu cette audace-là ou ce courage-là, et j'ai eu énormément de gratitude envers eux pour cela, avec la monteuse aussi, bien sûr, toute l'équipe, et puis les distributeurs qui ont aussi ont pris le risque, l'atelier, de présenter ces films au cinéma. quand aujourd'hui vous êtes un cinéma et qu'on vous propose de diffuser à la place de productions qui sont léchées, professionnelles, c'est ça, ou même de Bis Repetita dont on parlait, qui est un film professionnel avec des acteurs professionnels, qui est léché sur la forme, et donc finalement il y a une part de risque dans le fait de proposer à la diffusion de distribuer ce film, mais c'est un risque que l'atelier distribution a pris, et donc la rencontre avec ces personnes-là, ce sont des acteurs professionnels du monde du cinéma. En effet, vous avez raison, c'est un monde nouveau pour David, moi et puis les élèves qui les ont rencontrés, puisque tout s'est fait de manière très collective, absolument. Ouais. À l'image de la méthode, encore une fois, j'y reviens toujours. Mais c'est vrai que ça a été d'abord avant tout la rencontre avec des êtres humains.
Le Monde est à eux est en salle à partir de mercredi. On en parle jusqu'à midi, mais là, c'est l'heure des news.
Studio B, l'actu ciné.
Avec les box-office pour commencer, Dune qui continue de faire un gros succès au box-office. 1 million de spectateurs supplémentaires pour cette deuxième semaine d'exploitation. C'est un tiers des billets vendus la semaine dernière au cinéma. Deuxième place sur le podium, Une Vie, le film avec Anthony Hopkins, 250 000 spectateurs. Suivi par Boléro sur le compositeur Maurice Ravel, 177 000 spectateurs. Il pique la place de Bob Marley, un autre musicien, mais dans un autre style, on va dire, puisque le biopic One Love passe quatrième avec 172 000 billets supplémentaires pour sa quatrième semaine d'exploitation. Un peu plus bas, même beaucoup plus bas dans le classement, et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce film. HLM Pussy, dont on vous parlait il y a 15 jours dans Studio B, récolte 14 000 entrées. C'est pas mal, mais on pouvait imaginer mieux. Je vous invite vraiment, je vous conseille beaucoup de voir ce film HLM Pussy, qui est donc toujours en salle. Film de Nora et l'Ourche. Vous pouvez retrouver le podcast de Studio B dont on a parlé de ce film sur toutes les plateformes. Batman 2 repoussé. La suite du film avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman devait sortir en octobre 2025. Ce sera finalement pas avant fin 2026. Conséquence, vous vous en doutez, de la grève qui a touché Hollywood l'an passé. Ce sera tout de même 5 ans après le premier épisode. Ready Player One aura une suite. Le premier sorti en 2018 avait rapporté 60 millions de dollars. Il fallait forcément une suite. Mais Steven Spielberg a annoncé qu'il ne reprendrait pas la réalisation. Il a indiqué qu'il resterait quand même producteur du film et qu'il participera donc à ce titre à la création du film. Et puis enfin, Scream sera de retour dans la série des films qui n'en finissent plus d'avoir des suites. Je demande Scream. Ce sera Scream 7. On n'a pas de date de sortie pour le moment, mais l'actrice Neve Campbell a annoncé que cette fois, elle serait au casting. C'est une historique qui était là depuis le premier, mais qui avait refusé son rôle dans Scream 6, car elle n'était pas d'accord sur le salaire proposé par la production. Vous restez avec nous, puisqu'on est là jusqu'à midi dans Studio B. On parle du documentaire Le Monde est à eux sur cette méthode réconciliation appliquée dans un lycée de Drancy avec Jérémy Fontagneux, le réalisateur du documentaire qui sort ce mercredi en salle. Et vous nous avez ramené un souvenir du tournage. On va mettre la photo sur nos réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez savoir de quoi on va parler dans quelques minutes, direction la page Facebook de Studio B, et puis on vient pour en parler dans quelques secondes. À tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
C'est Beurre FM que vous écoutez, Studio B, le magazine ciné. On est là comme chaque dimanche entre 11h et midi. Le film qu'on a choisi cette semaine, c'est un documentaire. Il s'appelle Le Monde est à eux, et notre invité est Jérémy Fontagneux, fondateur de la méthode réconciliation avec son collègue David Benoît, et réalisateur du coup du film Le Monde est à eux, documentaire qui sort ce mercredi en salle. On vous a proposé de ramener un souvenir du tournage. Alors c'est la tradition dans l'émission. Le tournage, c'était pas un tournage comme tous les autres films, mais vous avez quand même quelque chose à nous ramener. On a mis la photo sur notre page Facebook. Qu'est-ce que ce souvenir que vous nous avez ramené, Jérémy Fontagneux ?
En fait, c'est à la fois un souvenir ou un symbole du tournage qu'un souvenir ou un symbole de la méthode elle-même. Parfois, des élèves ou des parents d'élèves ont l'impression que cette méthode-là, elle est un petit peu géniale ou elle est un petit peu extraordinaire, alors que cet objet-là que j'ai ramené, c'est en fait tout simplement mon téléphone portable. L'outil qu'on utilise pour avoir ces échanges réguliers avec les parents, ce sont des SMS. C'est aussi bête que ça.
Et on les voit à l'écran dans le documentaire. Il y a la transcription des messages.
Ouais, il y a certains messages qui sont évoqués dans le film qui montrent que même si évidemment au lycée on voit surtout les élèves cette sorte de face-à-face entre les professeurs et les élèves, les parents sont toujours là de manière invisible parce que les échanges sont réguliers. Nous, on envoie des comptes rendus chaque semaine à chaque famille pour leur dire comment ça se passe, et puis pour les garder mobilisés aussi, parce que les parents parfois ils doutent, parfois ils sont un peu fatalistes. Il y a la maman qui l'a, un moment qui dit voyez avec lui parce que moi il m'écoute plus, et je lui réponds ne dites pas ça madame, on va y arriver. Donc parfois, les parents baissent les bras ou doutent de leur capacité à remettre leur enfant sur le bon chemin. Et à ce moment-là, on leur dit tenez bon. Et puis, à l'inverse, parfois, nous aussi, on doute et les familles nous gardent mobilisés en disant non, non, on y croit, on a déjà fait un beau chemin jusque-là. Donc vraiment, cet outil-là, qui est un outil tout bête que nous avons tous, et c'est pour ça qu'en fait, on utilise les SMS comme moyen de communication, parce qu'il y a une dimension immédiate très efficace. Les parents reçoivent dans la poche les nouvelles de la semaine.
C'est un lien direct.
C'est ça, alors que nous, dans notre lycée, comme dans beaucoup d'établissements, il y a un environnement numérique de travail, comme on dit, un ENT, c'est-à-dire une interface institutionnelle. Vous voyez, simplement le fait de la décrire, c'est déjà désagréable.
C'est compliqué. Ouais.
Donc, on n'a pas envie d'y aller. Voilà, c'est souvent pas très bien fait, pas très ergonomique. On donne des identifiants aux parents qu'une fois sur deux, les élèves ne transmettent pas ou que les parents
perdent. Si Nicole Belloubet nous écoute.
si Nicole Belloubet nous écoute, elle peut augmenter les professeurs qui ne sont pas assez payés. Mais disons que la manière dont l'institution, la manière dont l'école en France, au lycée comme en collège comme à l'école primaire, a prévu d'encadrer les relations entre parents et professeurs, cette manière-là, elle est assez froide, elle est assez austère. Et c'est vrai que l'originalité de cette méthode, c'est de casser ce froid-là, ou c'est de mettre au cœur du travail d'enseignant la relation parent-professeur, et que cette relation parent-professeur soit fortement en prise de chaleur humaine.
Et parce que donc c'est vraiment presque le cœur de la méthode, cette relation parent-professeur. Mais il faut que les parents soient volontaires, parce qu'on entend souvent parler de parents démissionnaires, il y a des débats autour de ça, alors que votre film donne l'impression que non, ils sont prêts à coller à l'institution.
Bien sûr, quoi. Les parents démissionnaires n'existent pas. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille à Drancy, j'ai jamais rencontré.
C'est important de le dire.
J'ai jamais rencontré de parents démissionnaires, et comme par hasard, quand on utilise cette expression, en particulier dans la bouche de certains journalistes ou surtout de certains responsables politiques, souvent conservateurs, c'est pour stigmatiser une partie de la population dans les quartiers populaires. Donc, cette expression de parents démissionnaires, elle cache souvent un mépris social ou un racisme. Moi qui suis sur le terrain, et nous les professeurs qui sommes sur le terrain, je peux vous dire qu'il n'y a pas de parents démissionnaires. Il y a des parents qui parfois doutent de leur capacité à influencer positivement leur enfant. Il y a parfois des parents qui ont le même sentiment d'impuissance que nous les professeurs. Il y a des parents qui ont l'impression que, vous voyez, des parents qui sont démunis. Mais ce ne sont pas des parents démissionnaires, parce que derrière l'expression démissionnaire, il y a une sorte de moralisation ou de culpabilité qu'on veut transmettre en disant, en gros, ils s'en foutent. Un peu comme au moment des émeutes l'année dernière, Macron qui dit il faut que les parents tiennent leurs gosses. Comme si les parents disaient bah, je m'en fous que t'ailles piller des commerces. Et donc, du coup, le problème, ce serait ces Français-là ou ces Français avec certaines origines-là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, les parents démissionnaires, non, on n'en connaît pas. Par contre, des parents qui doutent, des parents qui ont le sentiment d'être impuissants, des parents qui parfois ont l'impression d'être démunis, oui, bien sûr, mais comme nous, enseignants. On a le sentiment d'être impuissant, on a le sentiment d'être démuni, souvent, et c'est ce qui explique que parfois, il y a des gens qui disent « les profs s'en foutent, les profs râlent, les profs font leur métier en le bâclant ». C'est pas vrai. C'est simplement qu'on est seul. Et c'est souvent ce qui arrive aux parents aussi. Le cœur de la méthode, c'est est-ce que on peut cesser d'être seul, est-ce qu'on peut casser cette solitude en se serrant les coudes, parce qu'après tout, on a les mêmes buts, et lorsqu'on fait cette promesse-là et qu'on la tient avec ces échanges réguliers et qu'on arrive du coup à garder cette relation forte du début à la fin de l'année, il n'y a plus de profs démissionnaires, il n'y a plus de parents démissionnaires, il n'y a plus que des adultes qui se sont remonté les manches ensemble. Se remonter les manches, moi j'ai entouré de collègues qui le font en permanence et de collègues qui travaillent beaucoup plus que moi d'ailleurs, qui sont beaucoup plus investis que moi, parce que le cœur de la méthode n'est pas de travailler de plus, c'est de faire mieux travailler les élèves ou de faire mieux travailler les parents.
Bah, ils travaillent un peu plus, les élèves, quand même.
Les élèves travaillent beaucoup plus qu'avant, bien sûr.
Pression, quand même.
Oui, mais disons que nous, en tant qu'enseignants, on ne travaille pas plus. Donc, c'est simplement que la solitude qui souvent touche les professeurs, là, elle disparaît complètement. Et de la même manière que des parents peuvent donner l'impression d'être démissionnaires, c'est pas le cas, c'est juste qu'ils sont isolés, c'est juste qu'ils sont démunis. On peut les stigmatiser, les insulter, je ne pense pas que ça permette quoi que ce soit de positif. Là, l'idée est d'aller les chercher, de les rassurer, de leur parler de manière respectueuse, de manière aimable, de les traiter avec la dignité qu'ils ont. Et quand ce genre de choses advient, il y a plus de parents démissionnaires.
Et on en vient au thème que je vous ai proposé, enfin quand je vous demandais de quelle question vous voulez que je vous pose, vous vouliez qu'on parle de l'image plutôt positive des quartiers que peut donner votre film. Là, on est en plein dedans, finalement. Oui. Quand on voit votre film, on voit des gens qui sont tous contents d'être ensemble, contents de vouloir progresser ensemble et qui ont trouvé juste un truc pour que tout le monde aille dans le même sens, qui est le bon
Bien
sens.
Sûr. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a plus de 200 professeurs, à la fois professeurs des écoles, professeurs de lycée et surtout en majorité professeurs de collège partout en France qui, quand ils se lancent, ont l'impression de voir Drancy comme une sorte de modèle, le mot est un peu fort, mais en tout cas de source d'inspiration. Et donc, c'est vrai que beaucoup de collègues sont impressionnés parce qu'ils se disaient, mais attends, Drancy, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est un département compliqué, là-bas, il n'y a rien qui fonctionne. Ils ont cette vision très négative et insultante des quartiers populaires qui vient des médias, qui vient de la classe politique, qui vient du mépris social et du racisme qu'il y a en France. Et là, ils associent Drancy à de l'espoir, à quelque chose qui, eux, à l'autre bout de la France, dans des zones rurales ou dans des centres-villes parfois, des collègues qui reprennent ces outils qui ont été élaborés là et dont nous disons en permanence, mon collègue et moi, que nous ne les avons pas inventés par notre génie, comme vous l'avez compris, mais ce sont ces familles-là, ce sont ces élèves-là, ces parents-là qui nous ont aidés à élaborer. En fait, on l'a fait ensemble, cette méthode. C'est Drancy. Ce sont les quartiers populaires. Les quartiers populaires ne sont pas un problème. Il est même possible que ce soit une solution. Cette méthode ou ce projet et ce film en sont une preuve, ou en tout cas, ils donnent cette image-là. Et le but du film n'est pas de donner une bonne image de Drancy, c'est simplement de montrer la réalité telle qu'elle est avec cette méthode-là. Et c'est vrai que la réalité, elle est époustouflante. C'est-à-dire que les élèves sont magnifiques, les élèves, quoi. Oui. Ils sont très courageux, C'est pour nous, c'est un honneur d'être au service de ces familles-là. Donc c'est l'un des buts du film, c'est de casser un petit peu à notre toute petite échelle ce mépris social permanent qui est insupportable, le racisme qui conduit à toujours stigmatiser les mêmes, quoi.
Et qui amène jamais à des trucs très positifs.
Ouais.
On voit les cours, hein, le doc montre aussi, donc on a parlé un petit peu de la partie dans les familles, mais on voit aussi dans les parties qui sont au lycée, des parties hors lycée, on va dire, notamment avant les vacances de Noël, vous allez vous accompagner les élèves à la fête foraine, vous faites des sorties. On a parlé aussi de la fête à la fin d'année, qui est presque plus, entre la fête et la cérémonie, puisque tout le monde parle. Enfin,
c'est un
aspect team building presque.
En fait, c'est vrai que l'aspect un peu officiel ou un peu oui, formel, a aussi comme but de dire aux élèves, vous êtes dignes d'admiration, oui. Vous êtes dignes de louange. Donc nous allons faire les choses telles que vous le méritez, quoi, avec un peu de cérémoniel, en effet.
C'est important, ces moments de cohésion, ils sont importants.
En fait, la cohésion...
C'est peut-être le deuxième point de la méthode.
Disons que le cœur de la méthode, c'est alliance parents-prof. On secoue les élèves ensemble, donc les élèves arrêtent de gâcher leur potentiel, ils se mettent au travail, ils progressent, ils ont un déclic, en fait je suis pas nul, je suis capable d'y arriver, donc ils doublent leurs efforts, ils changent complètement de vision sur eux-mêmes, sur les adultes, etc. Et donc succès, formidable, fierté. Mais c'est vrai qu'on en parle dans le film parce que c'est plus une conséquence de la méthode que la méthode elle-même. Disons que lorsque les élèves arrêtent d'être dans cette espèce de résistance un peu débile, adolescente, des adultes, ils me comprennent pas, j'en ai marre, etc. Donc lorsque les élèves arrêtent d'être debout sur le frein, si je puis dire, et qu'ils se mettent au boulot, ils se rendent compte que leur voisin, leur voisine est dans la même situation, puisque le travail avec les familles concerne tous les élèves. Et donc, ils sont, comme le dit Adem à un moment, de manière un peu familière, dans la même merde.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que ça crée chez eux une forte cohésion. Je reviens à nous en tant qu'enseignants. On passe d'une situation où habituellement, comme nous, il y a quelques années, en début de carrière, il y a 15 ans, nous étions, mon collègue comme moi, seuls, face à des élèves de mauvaise volonté, et où l'ambiance du groupe ne tirait pas forcément le groupe dans la bonne direction, parce que les élèves se jugent beaucoup entre eux. S'il y en a un qui veut participer ou être sérieux ou être sérieuse,
oui, il y a un peu montré du doigt, c'est l'intérêt de la service.
Tête, ouais. C'est ça, la tête de faillot, il y a du harcèlement, etc. Donc du coup, il fallait se battre contre chaque élève et contre le groupe, ouais, comme énergie négative. Alors que là, l'idée, c'est nous ne sommes plus seuls parce qu'il y a les parents avec nous, nous ne sommes plus seuls parce que les élèves arrêtent d'être dans la confrontation ou dans l'opposition, et puis le groupe vient nous aider comme force d'émulation.
Et les profs nous écoutent et qui veulent tenter l'expérience, comment ils font?
Alors, ils peuvent nous contacter et ils sont les très bienvenus. On est 200 maintenant dans le collectif et on leur transmettra plein d'outils qui permettent de se lancer à leur tour, à leur façon. Soit en utilisant les réseaux sociaux, on a créé des comptes, ils peuvent nous envoyer un MP, soit en envoyant un mail à l'adresse mail projet.réconciliation@gmail.com.
Voilà, projet.réconciliation@gmail.com. Et puis pour se faire une idée de la méthode, le documentaire qui sort ce mercredi en salle et qui il va avoir une vie longue, on va dire, au cinéma. Il est peut-être pas au cinéma, dans votre cinéma, dans votre ville, ce mercredi, mais s'il est pas ce mercredi, il y sera mercredi prochain ou même d'ici quelques semaines. Le Monde est à eux, c'est votre film, Jérémy Fontanu. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci
ce matin
à vous.
Sur Beurre FM. La suite du programme, c'est le retour de la musique. N'oubliez pas tous nos programmes du Ramadan avec ce soir, comme tous les soirs, durant ce Ramadan, Ramadan & Co avec Philippe et l'imam Abdelhaï Mamoun. On vous donnera, comme chaque soir, l'heure du jeûne, l'heure de rupture du jeûne à la seconde près. La suite du programme, donc la musique. Si vous voulez retrouver les podcasts de l'émission, rendez-vous sur beurrefm.net, sur l'application et sur toutes les plateformes de podcasts. On se retrouve dimanche prochain. Si tout va bien, on parlera de la série Ourika, la série de Booba qui va sortir sur Amazon. Rendez-vous donc dimanche prochain et d'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.